Chapitre 218. Le vin de Melun. Le roi était entré effectivement dans Melun avec l'intention de traverser seulement la ville. Le jeune monarque avait soif de plaisir. Durant tout le voyage, il n'avait aperçu que deux fois la Vallière et, devinant qu'il ne pourrait lui parler que la nuit dans les jardins après la cérémonie, il avait hâte de prendre ses logements à Vaux. Mais il comptait sans son capitaine des mousquetaires et aussi sans M. Colbert. Semblable à Calypso qui ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse, notre Gascon ne pouvait se consoler de n'avoir pas deviné pourquoi Aramis faisait demander à Perserin l'exhibition des habits neufs du roi. Toujours est-il, se disait cet esprit flexible dans sa logique, que l'évêque de Vannes, mon ami, fait cela pour quelque chose, et de se creuser la cervelle bien inutilement. D'Artagnan, si fort assoupli à toutes les intrigues de la cour, D'Artagnan, qui connaissait la situation de Fouquet mieux que Fouquet lui-même, avait conçu les plus étranges soupçons à l'énoncé de cette fête qui eût ruiné un homme riche et qui devenait une œuvre impossible, insensée pour un homme ruiné. Et puis, la présence d'Aramis, revenu de Belle-Île et nommé grand ordonnateur par M. Fouquet, son émiction persévérante dans toutes les affaires du surintendant, les visites de M. de Vannes chez Baisemeaux, tout ce louche avait profondément tourmenté D'Artagnan depuis quelques semaines. « Avec des hommes de la trempe d'Aramis, disait-il, on est le plus fort que l'épée à la main. Tant qu'Aramis a fait l'homme de guerre, il y a eu espoir de le surmonter. Depuis qu'il a doublé sa cuirasse d'une étole, nous sommes perdus. Mais que veut Aramis ?» Et D'Artagnan rêvait. « Que m'importe, après tout, s'il ne veut renverser que M. Colbert ? Que peut-il vouloir autre chose ?» D'Artagnan se grattait le front, cette fertile terre d'où le soc de ses ongles avait tant fouillé de belles et bonnes idées. Il eut celle de s'aboucher avec M. Colbert, mais son amitié, son serment d'autrefois, le liait trop à Aramis. Il recula. D'ailleurs, il haïssait ce financier. Il voulut s'ouvrir au roi, mais le roi ne comprendrait rien à ses soupçons, qui n'avaient pas même la réalité de l'ombre. Il résolut de s'adresser directement à Aramis la première fois qu'il le verrait. « Je le prendrai entre deux chandelles, directement, brusquement, » se dit le mousquetaire. « Je lui mettrai la main sur le cœur et il me dira... »« Que me dira-t-il ? » ?»« Oui, il me dira quelque chose, car, mordius, il y a quelque chose là-dessous. » Plus tranquille, D'Artagnan fit ses apprêts de voyage et donna ses soins à ce que la maison militaire du roi, fort peu considérable encore, fut bien commandé et bien ordonné dans ses médiocres proportions. Il résulta, de ces tâtonnements du capitaine, que le roi se mit à la tête des mousquetaires, de ses Suisses et d'un piquet de gardes françaises lorsqu'il arriva devant Melun. On eût dit d'une petite armée. M. Colbert regardait ses hommes d'épée avec beaucoup de joie. Il en voulait encore un tiers en sus. Pourquoi ? Disait le roi. Pour faire plus d'honneur à M. Fouquet, répliquait Colbert. Pour le ruiner plus vite, pensait D'Artagnan. L'armée parut devant Melun, dont les notables apportèrent au roi les clés et l'invitèrent à entrer à l'hôtel de ville pour prendre le vin d'honneur. Le roi, qui s'attendait à passer outre et à gagner Vaux tout de suite, devint rouge de dépit. Quel est le sot qui m'a valu ce retard ? Grommela-t-il entre ses dents, pendant que le maître échevin faisait son discours. « Ce n'est pas moi, » répliqua D'Artagnan, « mais je crois bien que c'est M. Colbert. » Colbert entendit son nom. « Que plaît-il à M. D'Artagnan » demanda-t-il. « Il me plaît de savoir si vous êtes celui qui a fait entrer le roi dans le vin de Brie. » « Oui, monsieur. Alors c'est à vous que le roi a donné un nom. »« Lequel, monsieur ?» « Je ne sais trop. Attendez. Imbécile ? Non, non. Sot, sot, stupide. Voilà ce que Sa Majesté a dit de celui qui lui a valu le vin de Melun. D'Artagnan, après cette bordée, caressa tranquillement son cheval. La grosse tête de M. Colbert enfla comme un boisseau. D'Artagnan, le voyant si laid par la colère, ne s'arrêta pas en chemin. L'orateur allait toujours. Le roi rougissait à vue d'œil. « Mordius, dit flegmatiquement le mousquetaire, le roi va prendre un coup de sang. Où diable avez-vous eu cette idée-là, monsieur Colbert? Vous n'avez pas de chance. » « Monsieur, dit le financier en se redressant, elle m'a été inspirée par mon zèle pour le service du roi. Bah! Monsieur, Melun est une ville, une bonne ville, qui paye bien et qu'il est inutile de mécontenter. Voyez-vous cela? Moi qui ne suis pas un financier, j'avais seulement vu une idée dans votre idée. Laquelle, monsieur? Celle de faire faire un peu de bile à monsieur Fouquet, qui s'évertue là-bas sur ses donjons à nous attendre. Le coup était juste et rude. Colbert en fut désarçonné. Il se retira l'oreille basse. Heureusement, le discours était fini. Le roi but, puis tout le monde reprit la marche à travers la ville. Le roi rongeait ses lèvres, car la nuit venait et tout espoir de promenade avec la Vallière s'évanouissait. Pour faire entrer la maison du roi dans Vaux, il fallait au moins 4 heures, grâce à toutes les consignes. Aussi le roi, qui bouillait d'impatience, pressa-t-il les rênes afin d'arriver avant la nuit, mais au moment de se remettre en marche, les difficultés surgirent. « Est-ce que le roi ne va pas coucher à Melun ?» dit M. Colbert bas à D'Artagnan. M. Colbert était bien mal inspiré ce jour-là de s'adresser ainsi au chef des mousquetaires. Celui-ci avait deviné que le roi ne tenait pas en place. D'Artagnan ne voulait le laisser entrer à Vaux que bien accompagné. Il désirait donc que Sa Majesté n'entrât qu'avec toute l'escorte. De notre côté, il sentait que les retards irriteraient cet impatient caractère. Comment concilier ces deux difficultés? D'Artagnan prit Colbert au mot et le lança sur le roi. « Sire, dit-il, monsieur Colbert demande si votre majesté ne couchera pas à Melun. »« Coucher à Melun, et pourquoi faire ? » s'écria Louis XIV. « Coucher à Melun ? Qui diable a pu songer à cela quand monsieur Fouquet nous attend ce soir ?»« C'était, reprit vivement Colbert, la crainte de retarder votre majesté, qui, d'après l'étiquette, ne peut entrer autre part que chez elle, avant que les logements aient été marqués par son fourrier et la garnison distribuée. D'Artagnan écoutait de ses oreilles en se mordant la moustache. Les reines entendaient aussi. Elles étaient fatiguées. Elles eussent voulu dormir et surtout empêcher le roi de se promener, le soir, avec monsieur de Saint-Aignan et les dames. Car, si l'étiquette renfermait chez elles les princesses, les dames, leur service fait, avaient toute faculté de se promener. On voit que tous ses intérêts, s'amoncelant en vapeur, devaient produire des nuages, et les nuages, une tempête. Le roi n'avait pas de moustache à mordre. Il mâchait avidement le manche de son fouet. Comment sortir de là? D'Artagnan faisait les yeux doux et Colbert le gros dos. Sur qui mordre? « On consultera là-dessus la reine, » dit Louis XIV en saluant les dames. Et cette bonne grâce qu'il eut pénétra le cœur de Marie-Thérèse, qui était bonne et généreuse, et qui, remise à son libre arbitre, répliqua respectueusement. « Je ferai la volonté du roi, toujours avec plaisir. »« Combien faut-il de temps pour aller à Vaux ?» demanda Anne d'Autriche en traînant sur chaque syllabe et en appuyant la main sur son sein endolori. « 1 heure pour les carrosses de leur majesté, dit D'Artagnan, par des chemins assez beaux. » Le roi le regarda. « 1 quart d'heure pour le roi, se hâta-t-il d'ajouter. « On arriverait au jour, dit Louis XIV. Mais les logements de la maison militaire, objecta doucement Colbert, feront perdre au roi toute la hâte du voyage, si prompt qu'il soit. Double brute, pensa d'Artagnan, si j'avais intérêt à démolir ton crédit, je le ferais en 10 minutes. À la place du roi, ajouta-t-il tout haut, en me rendant chez M. Fouquet, qui est un galant homme, je laisserai ma maison, j'irai en ami. J'entrerai seul avec mon capitaine des gardes. J'en serai plus grand et plus sacré. La joie brilla dans les yeux du roi. Voilà un bon conseil, dit-il. Mesdames, allons chez un ami en ami. Marchez doucement, messieurs des équipages, et nous, messieurs, en avant. Il entraîna derrière lui tous les cavaliers. Colbert cacha sa grosse tête renfrognée derrière le cou de son cheval. J'en serai quitte, dit d'Artagnan tout en galopant, pour causer dès ce soir avec Aramis. Et puis, M. Fouquet est un galant homme, Morius. Je l'ai dit, il faut le croire. Voilà comment, vers 7 heures du soir, sans trompette et sans gardes avancés, sans éclaireur ni mousquetaire, le roi se présenta devant la grille de veau, où Fouquet, prévenu, attendait depuis une demi-heure, tête nue, au milieu de sa maison et de ses amis.